Alors, maintenant, j'en viens à l'enseignement que je vous fais. Tant comme ça, il ne me reste plus qu'une demi-heure, là, c'est Alors, en priant, il y a eu plusieurs intuitions sur cet enseignement, mais finalement, ça va être assez étonnant. Je vais vous parler de la joie. Mais pas trop vite. En fait, je vais vous parler de la joie, mais je vais aussi vous parler de la joie via la tristesse. Oh non, mon père, vous n'allez pas nous parler de la tristesse. Non, en fait, je vais vous parler de la joie. Après avoir parlé de la parole de Dieu, sur ce chemin de sainteté, nous l'avons reçu toute la journée d'hier, je vais vous parler de la joie parce que vous savez que lorsque nous fêtons la Toussaint, l'évangile qui nous est donné, c'est l'évangile des béatitudes, avec ce mot heureux. Heureux. Et les saints sont témoins de la joie. Et en même temps, il y a un paradoxe, c'est que ils sont témoins de la joie et en même temps, leur vie n'a pas été toute joyeuse. Enfin, c'est pas une joie, vous voyez, simplement « Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. » Alors, il y a cette joie-là. Mais elle est dans la joie et puis en même temps il y a des moments, il y a des événements qui se passent qui sont pas si simples. On canonise aujourd'hui Paul VI. Bon ben moi j'ai lu une biographie qui s'appelle Paul VI, un pape crucifié. Bon ben il est saint quand même, mais il a vécu des moments quand même pas si simples. Voyez? Et en même temps profondément nous sommes appelés à la joie. Et le pape François nous invite fortement à la joie. Tous les documents du pape François font référence à la joie. La joie de l'évangile, c'est le premier document qu'il nous a donné. La joie de l'amour. Réjouissez-vous et exultez. Soyez dans la joie et l'allégresse. Donc, c'est le document sur la sainteté. Et puis, Laudato aussi. Loué sois-tu, Seigneur. Tous ces documents on met toujours le mot de la joie, on met de la louange, de la joie présent et en lumière. Dans ce document, au numéro 32, dans Gaudete et exultate, le pape François dit, n'aie pas peur de la sainteté, elle ne t'enlèvera pas les forces, ni la vie, ni la joie. C'est tout le contraire, car tu arriveras à être ce que le Père a pensé quand il t'a créé, et tu seras fidèle à ton propre être. Et donc il y a une joie profonde dans laquelle nous sommes invités à rentrer, et que je voudrais déployer un petit peu avec plusieurs aspects. D'abord, je pense que le premier point que je voudrais évoquer avec vous, c'est que la joie, c'est un défi, en fait. Un défi aussi pour notre temps, où on peut avoir du mal à se réjouir. On peut avoir du mal à se réjouir alors qu'au fond, on a beaucoup de choses autour de nous qui devraient nous inviter à nous réjouir. Et aujourd'hui, on peut se réjouir de cette température, même si elle n'est pas une joie pour tous. Eh bien, cette grâce que le Seigneur nous donne de cette journée estivale. Jésus dit dans les béatitudes, j'ai regardé un peu les béatitudes. Il y a les huit béatitudes que vous connaissez, mais il y en a d'autres. Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Heureux les oreilles qui entendent ce que vous entendez. Alors il y a un présent. Comment est-ce qu'aujourd'hui je me réveille, je me dis heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Moi, vous voyez, le matin, je me réveille et qu'est-ce que je vois en ce moment? Orion. Bon, je ne mets pas mes volets, donc comme ça c'est plus simple à la voir. Mais donc j'ai les yeux tournés et je me dis, tiens, allez, je vois suivant l'endroit où est Orion, s'il est urgent de se lever ou pas quand même. Parce que quand je vois plus Orion, je me dis là, t'es un peu en retard là. Vous voyez? Et il dit, ah, la beauté des astres du ciel. Vous voyez, la beauté de la création, la beauté des œuvres. Le contexte de l'évangile, c'est différent. Quand Jésus dit, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, il complète en disant, bien des rois et des prophètes auraient voulu voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous voyez, on dit toujours, ah, mon père, c'était mieux avant, c'était mieux avant, c'était mieux avant. Ouais, ben, Jésus, c'est pas ce qu'il dit, hein. Il dit, avant, eux, ils n'ont pas eu le sauveur, vous, vous l'avez. Et donc, réjouissez-vous et rendez-vous compte de ce que vous voyez. Et voyez, je me dis, est-ce que je me réjouis? Voilà, hein, je suis dans la joie, une joie immense, car mon Dieu m'a libéré. Voilà, c'est la fin de ce chant. Et au fond, cette joie, elle est vraie, elle est réelle, même si elle n'est pas toujours dans une exultation extérieure. La prise de conscience de cette présence du Seigneur. On reçoit aujourd'hui dans la prière ces textes de la résurrection. Quelle joie que la mort est vaincue et l'enfer dévasté. Quelle joie d'être comme ces disciples d'Emmaüs où le Christ marche au milieu de nous. Oui, le Seigneur vient nous rejoindre dans notre quotidien. Quelle joie de vivre ces fêtes ensemble. Un autre texte sur la béatitude, sur cette béatitude du présent, hein, donc c'est mon premier point, nous réjouir maintenant, sur ce maintenant. Saint Pierre, quand il a une bonne révélation, tout d'un coup, là, Jésus lui dit, pour vous qui suis-je? Et il dit, bah, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit, heureux es-tu? Heureux es-tu, car c'est le Père qui t'a inspiré cela. Vous voyez, Pierre était quand même pas mal. Il dit, Pierre, j'ai une bonne note aujourd'hui. Oh, je me suis cassé la figure plein de fois avant, mais là, j'ai une bonne note. Et Jésus lui dit, mais heureux es-tu, le Père t'a inspiré. Vous voyez, quelles sont les inspirations que nous avons reçues de Dieu? Comment vous pouvez faire mémoire, et nous pouvons faire mémoire, de dire, oh, et aujourd'hui, qu'est-ce que le Seigneur inspire? Qu'est-ce qu'il met dans mon cœur? Il dit, tiens, et souvent, on a cette inspiration, on dit, tiens, c'est quand même marrant, on a ça dans le cœur. Moi, hier, ça m'a touché, parce que on a préparé les fêtes, on s'est dit, tiens, on va faire quelque chose sur la parole de Dieu, et comme chemin de sainteté, et puis on est à la louange, et tout d'un coup, trois paroles sur la parole. L'importance de la parole de Dieu dans notre vie. Je dis, ah bah Seigneur, c'est sympa. Tu nous confirmes, au fond, on était peut-être inspiré à choisir ce thème-là. Vous voyez? Et de se réjouir. Ah Seigneur, tu es avec nous, tu nous confirmes cela. Donc, heureux es-tu, car c'est le Père qui t'a inspiré. Donc, dans toute notre vie spirituelle, inspiré, hein, c'est le fait de spirer, c'est lié à l'Esprit Saint aussi, notre respiration, comment nous respirons Dieu et nous réjouissons que Dieu est là et que Dieu est avec nous. Heureux celui qui écoute la parole de Dieu et qui la garde, dans Saint Luc au chapitre 11, verset 28. On l'a eu hier dans l'Évangile. Oui. Et c'est déjà écrit dans mon enseignement. Encore une parole, voilà, que Dieu nous a donnée par la liturgie. Heureux ceux qui lavent leur robe dans le sang de l'agneau, dans l'Apocalypse. Vous voyez, alors c'est intéressant comme texte parce que c'est pas si simple. Ça veut dire qu'en fait, mon vêtement, il n'est pas très propre. Donc je pourrais être triste. Je peux dire, bah voilà, en fait, mon père, la robe nuptiale, je l'ai un peu perdue. Et donc je reste dans cette tristesse. Et l'Apocalypse me dit, mais heureux celui qui lave sa robe dans le sang de l'agneau. Alors là, je sens Sœur Bojena qui va dire, mon père, il n'y a pas eu assez de confession. Et ils n'en ont pas pu se confesser. C'est vrai que ça peut être une tristesse aussi. C'est-à-dire, voilà. On n'a pas pu tout faire. Mais, en fait, Seigneur, tu nous donnes ta miséricorde. Et au fond, peut-être que mon vêtement est souillé, mais je me dis, j'ai cette perspective de dire, mais Seigneur, tu veux bien laver ma robe. C'est extraordinaire. Vous voyez? Au lieu d'être resté dans la tristesse de regarder son péché, on va regarder la beauté de ce que Seigneur veut faire. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau, l'entend à chaque messe, c'est aussi un texte de l'Apocalypse. Seigneur, tu me donnes l'Eucharistie. Et en fait, je m'y habitue et tout, mais c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Alors, peut-être que à tous ces textes où Jésus nous invite à être dans la joie, dans ces béatitudes concrètes, hein, qui sont différentes encore de ces autres béatitudes, on pourrait répondre avec Saint Pierre à la transfiguration, lorsque nous voyons tout ça, alors pas seulement les choses spirituelles, mais aussi les choses humaines, les amitiés humaines, la beauté de la création, la beauté des œuvres de Dieu. Moi, hier à la messe, je me suis réjoui parce que je vous avais tous devant moi, là, pendant la messe, et puis derrière, je voyais les feuilles qui tombaient, là. Jusqu'à ce que les feuilles de l'animateur tombent aussi. Je me dis, oh là là, il y a une unité, toutes les feuilles tombent, c'est extraordinaire. Et c'était beau, ces couleurs d'automne sont magnifiques, hein. Voilà. On pourrait dire, oh, c'est l'automne. Ben, on peut dire, waouh, c'est beau l'automne. Et donc, Saint-Pierre, à la transfiguration, il dit, il est heureux, Seigneur, que nous soyons ici. Il est heureux que nous soyons ici. Peut-être qu'on pourrait se dire ça à deux, là. Il est heureux que nous soyons ici. Si vous n'êtes pas heureux, vous ne le dites pas. Hein. Mais vous pouvez tourner votre voisin et lui dire, bah, tu sais, il est heureux qu'on soit ici, quand même. Alors, vous pouvez le faire, là. Alors, le pape François, il montre cet appel naturel à la joie. Il dit notamment, par exemple, je développerai pas beaucoup ce point, mais c'est au numéro 126. Ordinairement, la joie chrétienne est accompagnée du sens de l'humour, si remarquable chez des saints comme Thomas More, Vincent de Paul, Philippe Néri. La mauvaise humeur n'est pas un signe de sainteté. Et puis après, il dit, éloigne de ton cœur le chagrin. Ce que nous recevons du Seigneur afin d'en jouir est tel que parfois la tristesse frise l'ingratitude de notre part, frise le repli sur nous-mêmes, au point que nous sommes incapables de reconnaître les dons de Dieu. Pendant les fêtes du Sacré-Cœur, nous avons pris le temps de déployer ce thème de la gratitude, et c'est un thème important pour Paray le Monial, puisque Jésus se plaint des ingratitudes, et invite Marguerite Marie à suppléer aux ingratitudes, donc à être dans la gratitude. Et vous pourrez, si vous le voulez, pour reprendre ce thème-là, il y a des bons livres sur la gratitude qui ont été écrits. Et donc cette joie ressort fortement dans le document, et même s'il y a des dimensions, comme sur le thème de la sainteté, il y a des points un peu, ça nous bouscule sur ce thème de la sainteté. Et il dit, ce qui a été, au numéro 122, ce qui a été dit jusqu'à présent n'implique pas un esprit inhibé, triste, aigri, mélancolique ou un profil bas, amorphe. Le saint est capable de vivre joyeux et avec le sens de l'humour. Sans perdre le réalisme, il éclaire les autres avec un esprit positif et rempli d'espérance. Être chrétien est joie dans l'Esprit Saint, dit saint Paul. Parce que l'amour de charité entraîne nécessairement la joie. Toujours celui qui aime se réjouit d'être uni à l'aimé. C'est pourquoi la joie, c'est la conséquence de la charité. Nous avons reçu la merveille de sa parole et nous l'embrassons parmi bien des tribulations avec la joie de l'Esprit Saint. Si nous laissons le Seigneur nous sortir de notre carapace et nous changer la vie, alors nous pourrons réaliser ce que demandait saint Paul, « Réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur, je le dis encore, réjouissez-vous. » Et ce thème de la joie revient souvent chez les prophètes, « Pousse des cris de joie, des clameurs, monte sur une haute montagne, messager de Sion, élève et force la voix, que les montagnes poussent des cris, car le Seigneur a consolé les peuples, son peuple, il prend en pitié ses affligés, exulte avec force, fille de Sion, crie de joie, fille de Jérusalem, dans Isaïe, dans Zacharie. Ne vous affligez point, la joie du Seigneur est votre forteresse. Et Marie elle-même tressaille de joie en Dieu son Sauveur. Jésus tressaille de joie sous l'action de l'Esprit Saint. Et quand il passe, la foule était dans la joie. Et après la résurrection, les disciples, il y avait une joie vive dans la communauté chrétienne. Vous voyez, tous ces textes dont nous rappelle le pape entre les numéros 122 et 124 nous invitent à nous contemplons cette joie. Pour Marguerite Marie aussi, il y a des joies qui reviennent. J'ai remarqué d'ailleurs, j'ai regardé plusieurs lieux, j'ai regardé le Nouveau Testament, le document du pape François et les écrits de Marguerite Marie, pour vous donner un petit point si vous n'êtes pas convaincu. Marguerite Marie, elle parle 25 fois de la joie dans son autobiographie, 5 fois de la tristesse. Dans le document du pape, c'est un quart, trois quarts, pareil. 8 mentions de la tristesse et 40 fois la joie ou quelque chose comme ça. Et dans le Nouveau Testament, il y a 80 fois la joie, le mot joie et 20 fois le mot triste ou tristesse. Voilà, vous choisissez votre camp. Hein. Enfin bon, a priori, il y en a un qui est quand même plus important que l'autre. Marguerite Marie, sa joie, elle dit, elle a la joie de pouvoir communier souvent, elle a la joie de faire la volonté du Seigneur. Quand elle entend la possibilité d'être apparaît, la joie de Sainte Marguerite Marie, elle dit, la joie me transportait tellement que je criais, c'est ici où Dieu me veut. C'est ici où Dieu me veut. Alléluia. Vous voyez, elle est dans cette joie exultante. Elle dit, ah, je peux pas le garder là, il faut que je crie cette joie. Alors les jeunes de l'école qui viennent d'arriver là, depuis quelques semaines, ils peuvent dire, c'est ici que Dieu me veut, c'est extraordinaire, hein, pour 9 mois là, je vais être à Paray-le-Monial, c'est super. Voilà. Joie d'être uni et d'imiter aussi son Jésus crucifié. Alors, cette joie, elle est quand même pas si simple. Vous voyez, peut-être que, par exemple, le pape nous invite à, nous dit, à un moment, je ne parle pas de la joie consumériste et individualiste si répandue dans certaines expériences culturelles d'aujourd'hui. Car le consumérisme ne fait que surcharger le cœur. Il peut offrir des plaisirs occasionnels et éphémères, mais pas la joie. Donc il y a une distinction entre les plaisirs et la joie. Je me réfère plutôt à cette joie qui se vit en communion, qui se partage et se distribue, car il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et Dieu aime celui qui donne avec joie. L'amour fraternel accroît notre capacité de joie, puisqu'il nous rend capables de jouir du bien des autres. Réjouissez-vous avec qui est dans la joie. Nous nous réjouissons quand nous sommes faibles et vous êtes forts. En revanche, si nous nous concentrons sur nos propres besoins, nous nous condamnons à vivre avec peu de joie. J'étais impressionné il y a 20 ans maintenant, quand je suis parti en coopération en Amérique latine, j'étais impressionné de la joie, en fait. La joie des gens que j'ai visités. et qui n'avait rien, enfin qui n'avait pas grand-chose. Et pourtant, il y avait une véritable joie. Et souvent, alors, je vais parler des Français, mais on n'est quand même pas 100% dans la joie. Voilà. Et pourtant, on a quand même souvent à 2 à 3 voitures maintenant dans les familles, on a plein de biens matériels, tout ça, et au fond, il y a quelque chose qu'on n'a pas. Et vous voyez, un peu de ça, c'est-à-dire que je suis pas dans le jugement, je suis dans le constat de se dire, en fait, il nous manque quelque chose. Il y a quelque chose à cultiver pour nous sur cette joie que l'on recherche. Et en fait, je pense qu'il y a un paradoxe. Le paradoxe revient souvent chez le pape François, mais c'est son côté jésuite, hein. Il y a souvent le « et en même temps » qui revient, c'est-à-dire qu'à un moment, il va dire « on va pas passer sa vie à prier hein. ». Et puis à la fin, il vous fait 20 numéros sur « mais si vous priez pas, ça sert à rien hein. ». Donc vous voyez, donc vous dites « bah alors qu'est-ce qu'il faut faire quoi ?» Vous voyez, ben non, c'est-à-dire que vous êtes dans le monde, et cette joie, elle va être au contact des gens. Donc celui qui dit « ah non, moi je suis dans une joie confortable, je suis bien installé, là tout est bien en place, là. Touchez plus à rien parce que là c'est la joie là ». Il dit, bah oui, mais enfin c'est bien, mais enfin t'es quand même bien enfermé chez toi. Ce serait bien que tu sortes. Vous voyez? Et donc il y a cette complexité, et je pense, et c'est pour ça que je voulais traiter un peu la joie, et je vais l'aborder par le biais de la tristesse, pardon. Mais pourquoi je vais l'aborder par le biais de la tristesse? Parce que vous avez vu qu'il y a moins de références de la tristesse que de la joie. Donc si j'analyse tous les cas de la joie, je suis foutu, moi je m'en sors pas. Alors que si je regarde un peu, c'est un peu ma tactique de manière générale, si maintenant que vous m'écoutez pour certains depuis quelque temps, c'est de voir les points où ça va pas pour voir comment est-ce qu'on peut avancer là-dessus. C'est pas pour nous foutre le moral à zéro en disant, il nous a parlé de la tristesse le jour de la Sainte Marguerite de Marie et mon père. Non, c'est juste pour dire, ben voilà, qu'est-ce qui peut être cause de tristesse pour qu'on puisse dire, tiens, en fait, là, il y a des petits points à transformer. Voilà. Pour nous réjouir. Mais le constat, c'est que notre joie, elle peut être mise à l'épreuve et elle est en tout cas pas si simple. Et justement, comme je vous le disais avec Paul VI, mais avec Marguerite Marie aussi, on voit des situations de vie où elle n'est pas toujours dans une exultation justement du monde, où on dit, ben voilà, elle est dans un cadre de vie où forcément elle devrait être dans la joie. Non, elle est dans des situations complexes et en même temps, elle y trouve profondément de la joie, où elle arrive à le vivre joyeusement. Comme tu ne peux pas comprendre le Christ sans le royaume qu'il est venu apporter, ta propre mission, dit le pape François au numéro 25, est inséparable de la construction de ce royaume. Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ton identification avec le Christ et avec ses désirs implique l'engagement à construire avec lui ce royaume d'amour, de justice et de paix pour tout le monde. Le Christ lui-même veut le vivre avec toi dans tous les efforts ou les renoncements que cela implique, et également dans les joies et dans la fécondité qu'il peut t'offrir. Par conséquent, tu ne te sanctifieras pas sans te donner corps et âme pour offrir le meilleur de toi-même dans cet engagement. Et voilà le problème. C'est que nous, on voudrait la joie sans le travail. Vous voyez ? Et alors le pape dit, ben, construire le royaume, c'est fatigant quand même. Hein. Donc il va falloir se donner. Mais la subtilité, c'est que, et c'est là que c'est compliqué pour nous, et c'est là que c'est le paradoxe, c'est que c'est en nous donnant qu'on va y trouver de la joie. En nous mettant à travailler là-dessus, on va acquérir cette joie. Vous voyez, quand on a une relation fraternelle qui marche pas, eh bien, en réussissant à travailler là-dessus et en arrivant à aboutir à cela, hein, dans un couple, si les deux veulent se donner la bonne volonté d'y arriver, eh bien, avec humilité, eh bien, c'est pas facile au départ. Et on va arriver pas à pas à cette joie. Mais elle va nous coûter au départ, elle sera pas là dès le départ. Il n'est pas sain, alors c'est là que, voilà, ce numéro, justement, c'est le fait de construire le royaume, je vous lis quand même ce numéro 26. Il n'est pas sain d'aimer le silence et de fuir la rencontre avec l'autre, de souhaiter le repos et d'éviter l'activité, de chercher la prière et de mépriser le service. Tout peut être accepté et être intégré comme faisant partie de l'existence personnelle dans ce monde et être incorporé au cheminement de sanctification. Nous sommes appelés à vivre la contemplation également au sein de l'action et nous nous sanctifions dans l'exercice responsable et généreux de notre propre mission. Donc comme j'ai essentiellement des laïcs dans le monde devant moi, les amis, c'est au cœur de votre mission, c'est là que le Seigneur veut vous sanctifier et c'est là aussi qu'il nous donnera la joie. « L'Esprit Saint peut-il nous inciter à accomplir une mission et en même temps nous demander de la fuir ou d'éviter de nous engager totalement pour préserver la paix intérieure ? Cependant, nous sommes parfois tentés de reléguer au second plan le dévouement pastoral ou l'engagement dans le monde comme si c'était des distractions sur le chemin de la sanctification et de la paix intérieure. On oublie que la vie n'a pas une mission, mais qu'elle est une mission. Vous voyez, ce point, ça revient dessus, une autre expression. Tout à l'heure, on parlait des plaisirs, et là, on parle de la paix intérieure. Voilà, ben en fait, je constitue ma paix intérieure, mais je suis dans une paix intérieure, mais l'Esprit Saint me pousse à sortir, et moi, je suis dans une paix intérieure, je dis non, je suis dans la paix intérieure, c'est bon. Alors, et en même temps, le pape François va dire, cela n'implique pas de déprécier les moments de quiétude, de solitude et de silence devant Dieu, bien au contraire, car les nouveautés constantes des moyens technologiques, l'attraction des voyages, les innombrables offres de consommation ne laissent pas parfois d'espace libre où la voix de Dieu puisse résonner. Tout se remplit de paroles, de jouissances épidermiques et de bruit à une vitesse toujours croissante. Il n'y règne pas la joie, mais plutôt l'insatisfaction de celui qui ne sait pas pourquoi il vit. Comment donc ne pas reconnaître que nous avons besoin d'arrêter cette course fébrile pour retrouver un espace personnel, parfois douloureux mais toujours fécond, où s'établit le dialogue sincère avec Dieu. À un certain moment, nous devrons regarder en face notre propre vérité pour la laisser envahir par le Seigneur, et on n'y parvient pas toujours si on ne se sent pas au bord de l'abîme de la tentation la plus étouffante, si on ne sent pas le vertige du précipice de l'abandon le plus désespéré, si on ne se trouve pas absolument seul au fait de la solitude la plus radicale. C'est ainsi que nous trouvons des grandes motivations qui nous incitent à vivre à fond les devoirs personnels. Donc ce thème reprend plusieurs aspects sur la question de, justement, le fait de l'alternance entre être dans le monde et en même temps trouver cette solitude et ce cœur à cœur avec le Seigneur. Un autre point sur les plaisirs du monde et au fond, des fois, nous sommes dans une course au plaisir et en fait, on n'y retrouve pas le repos. Et il ajoute un troisième élément, c'est dans tout ça, il faut savoir repérer, une petite phrase subtile, assez... Je pense que quand on entend ça, on a un peu mal. C'est-à-dire que ça nous fait peur. Quand il nous dit, à un certain moment, nous devrons regarder en face notre propre vérité pour la laisser envahir par le Seigneur, et on n'y parvient pas toujours si on ne se sent pas au bord de l'abîme de la tentation la plus étouffante. Je suis dans une situation étouffante. Je vois, par exemple, mon péché, et vite, je vais me mettre dans l'action pour ne pas régler le problème. Et en fait, je peux être dans l'action et dans plein de choses, et je ne suis pas dans la paix ni dans la joie, parce que je n'ai pas réglé mon problème. Vous voyez ? Et il faut, un moment, et il va loin, il dit des fois, il faut aller pousser, il faut être comme si on était au bord du précipice, et qu'il n'y avait plus d'autres moyens, pour que le Seigneur dise, bon, écoute, si tu ne veux pas prendre les moyens, on va prendre les moyens. Mais moi, je veux pour toi la joie, et ça ne passera pas si tu ne travailles pas là-dessus. Vous voyez ? Appel à travailler sur nos difficultés et nos épreuves. Alors, du coup, je vais regarder un peu ces points des épreuves qu'on peut avoir en abordant le thème de voir dans le Nouveau Testament les références à la tristesse. Et du coup, quels sont les lieux qui peuvent être source de tristesse ? Et du coup, comment on peut choisir la joie ? Alors, je commencerai par une citation de Saint Jacques sur la joie, pardon. Heureux l'homme, celui qui supporte l'épreuve. Sa valeur, une fois reconnue, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Voilà, donc, nous osons rentrer aussi dans les épreuves. Alors, peut-être un premier aspect, on va aller d'une sphère extérieure et on va rentrer de plus en plus vers l'intérieur. L'aspect extérieur, c'est quel regard le monde a sur nous. Ben, des fois, le monde a le regard que les chrétiens, ils sont tristes quand même. Hein. C'est vrai. Alors, Saint Paul parle déjà de cette question-là. Et il dit, nous sommes tenus pour des imposteurs, et pourtant, nous sommes véridiques. C'est dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 10. Nous sommes tenus pour des gens obscurs, mais pourtant si connus. Nous sommes tenus pour des gens qui vont mourir, et nous voilà vivants, pour gens qu'on châtie, mais sans les mettre à mort. Nous sommes tenus pour tristes, nous qui sommes toujours joyeux. Pour pauvres, nous qui faisons tant de riches. Pour gens qui n'ont rien, nous qui possédons tout. Alors, voilà, il y a ce regard du monde sur nous, et en même temps, Paul dit, ben, ce regard, il n'est pas juste. Et est-ce que nous... J'ai envie de dire à Saint-Paul, oui, mais en même temps, Saint-Paul, les gens, quand ils nous voient, est-ce qu'ils nous voient, comme dirait le pape François, avec une tête de ressuscité? En fait, est-ce que nous avons conscience de la deuxième partie de la phrase de Saint-Paul? Est-ce que nous disons, en fait, je possède tout. Je suis pauvre, mais je possède tout. En fait, je suis triste, on me dit que je suis triste, mais en fait, je suis toujours joyeux. Il y a une joie qui habite mon cœur, profonde. Et comment est-ce que nous mettons en valeur cela? Vous voyez? Comment est-ce que nous mettons en valeur ce que nous possédons du Seigneur? Comment nous mettons en valeur ces richesses qu'il nous donne? Comment nous mettons en valeur cette joie qui peut habiter notre cœur? Peut-être que la remarque du monde à notre égard, elle est légitime, et que c'est à nous aussi de vivre une certaine conversion pour y arriver. Parce qu'il y a aussi une raison de la tristesse qui est liée à la conversion. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 11, il est dit « La correction cause tristesse pour une joie. » Certes, toute correction ne paraît pas sur le moment être un sujet de joie, mais de tristesse. Il y a des parents parmi vous? Quelques-uns? Bon, alors, je vais vous dire une parole qu'il ne faut pas dire, hein, mais apparemment, Saint-Paul dit qu'il, quand même, de temps en temps, faut corriger. Hein. Bon, ah non, mon père, parce que je veux que mon enfant il reste dans la joie, donc surtout, je ne corrige pas. Eh, mais la correction, elle est cause de tristesse, mais pour une joie. Donc effectivement, vous savez bien ça. Eh ben, quand vous corrigez vos enfants, ben, au départ, c'est pas vraiment un sujet de joie, mais de tristesse. Et l'Épître aux Hébreux dit, plus tard cependant, elle rapporte à ceux qu'elle a exercé un fruit de paix et de justice. Vous voyez, et je pense à cette situation. En fait, vous voyez, dans l'Écriture, le psalmiste dit à un moment, je rendrai grâce en confessant mon péché. Ah bon? Moi, mon péché, mon père, il m'humilie. Ben oui, il vous humilie, mais il humilie votre orgueil, mais si vous avez moins d'orgueil à la fin, c'est bien. Non, vous ne croyez pas? J'étais orgueilleux, mais j'ai vu mon péché, et du coup, je suis devenu moins orgueilleux. Ah ben, c'est bien. Mais si Jésus me montre mon péché, et que le fruit, c'est que je m'en convertisse, eh ben, merci Seigneur de m'avoir montré mon péché. Parce que maintenant, je suis plus en vérité qu'avant. Et ça ne m'a pas vraiment fait plaisir. Je pensais que j'étais un saint. Puis j'ai vu mon frère, il m'a dit, ah, tu sais, t'es pas un saint. Ah bon? Non, c'est pas possible. Si, tu vois, dans cette situation-là, c'était pas une situation de sainteté. Ah ouais, je vais peut-être pouvoir me convertir alors. Et donc, je trouve une joie profonde à me dire, voilà, je peux rentrer là. Aujourd'hui, on parle plus trop de la correction fraternelle. Surtout, faut pas faire de correction fraternelle. Mais notamment ceux qui sont mariés, vous êtes là pour, vous avez trouvé une aide assortie. Ben, il faut que l'aide assortie, elle vous aide vraiment, quoi. Comment est-ce que, alors c'est sûr que c'est difficile d'arriver à dire, en fait, chérie, j'ai quelque chose à te dire. L'idéal, ce serait d'inverser, de tendre la porte, de montrer que la porte est ouverte. Tu, t'aurais pas de... je sens que je suis mou en ce moment, t'as pas un point de conversion à me montrer? Ah si, j'ai un beau point de conversion à te montrer là. Vous voyez? Voilà. Et qu'on puisse s'entraîner à ce chemin de conversion. Saint Jacques, voyez votre misère, prenez le deuil, pleurez. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Pourquoi il parle de ça? Parce que le péché rend triste. On peut croire qu'on est dans la joie, alors qu'en fait, il y a une tristesse du péché. Je ne sais pas si vous expérimentez ça, mais moi j'expérimente ça. Je trouve que le péché me rend triste. Et donc, Saint Jacques nous dit, ben, en fait, prenez le deuil, mais il faut que vous traitiez votre point. Alors, il y a deux types de tristesse pour Saint Paul dans l'Épître aux Corinthiens. Vous savez, Saint Paul écrit deux lettres aux Corinthiens. La première, c'est pour leur dire... écoutez, excusez-moi de vous dire ça, mais votre manière de vivre, là, ça va pas du tout, quoi. Je préférais pas vous le dire, mais enfin bon, voilà. Je sens que vous allez pas être content, mais je vous le dis quand même. Et puis, la deuxième, c'est le moment où il regarde les fruits. Et il dit, je me réjouis maintenant, non de ce que vous ayez été attristé, mais de ce que cette tristesse vous a porté au repentir. Car vous avez été attristé selon Dieu, en sorte que vous n'avez de notre part subi aucun dommage. La tristesse, selon Dieu, produit en effet un repentir salutaire qu'on ne regrette pas. La tristesse du monde, elle, produit la mort. Ouh, ça met une ambiance. Voyez plutôt ce qu'elle a produit chez vous, cette tristesse selon Dieu. Quel empressement, dis-je, quelle excuse, quelles indignations, quelle crainte, quel ardent désir, quel zèle, quelle punition. Vous avez montré de toute manière que vous étiez innocent en cette affaire. Voyez, j'étais provoqué dans un point. Eh bien, j'ai pu manifester cette grandeur. J'ai pu me convertir, j'ai pu mettre du zèle. Jésus dit ça par rapport à Saint-Pierre. Quand tu seras revenu, mets deux fois plus d'ardeur. Peut-être que tu t'es planté. Mais maintenant, vas-y, on repart. Donc, Jésus n'appuie jamais sur un point pour nous enfoncer. Nous, des fois, on s'enfonce comme ça en disant « t'es comme ci, t'es comme ça, t'es ceci, t'es cela ». Ça, c'est mortifère. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est pas de faire mal. L'objectif, c'est de sauver. Écoute, là-dessus, il faudrait qu'on travaille. Là-dessus, il faut qu'on travaille. Vous voyez ? Donc, c'est sûr que dans votre manière de formuler, les conjoints, si vous prenez le « tu qui tue », ça va pas le faire. « Tu as encore fait ça, tu... » il faut pouvoir l'encaisser pour pouvoir ensuite rechanger. Vous voyez ? Mais l'enjeu, c'est quand même de pouvoir trouver une manière positive, d'une certaine manière, de dire « Mais je suis ton aide à sortie, et je suis avec toi, et ensemble, on va réussir à s'en sortir. » Vous voyez, dans nos communautés chrétiennes, ce serait super qu'on puisse faire ça aussi. S'entraîner en disant « moi j'ai ce problème-là, viens, je vais t'aider, et puis moi j'ai ce problème-là. Ah oui, je vais t'aider. » Et on va s'entraider à cette sainteté mutuelle. Normalement, on est là pour ça. Vous connaissez cette image du paradis et de l'enfer. C'est une autre image. J'ai bien aimé l'image du feu hier, avec le père. C'est l'image de... J'ai déjà dû la raconter. C'est l'image des Chinois qui... L'enfer, chez les Chinois, c'est être tous autour d'une grande marmite, comme ça. Il y a une grande marmite avec des plats délicieux, vous voyez, avec des Et puis on est tous autour, là. Et on a des baguettes, et on a des baguettes très longues. Et alors le fait, c'est que je peux aller prendre la nourriture, mais j'arrive pas à me la mettre sur la bouche. Donc c'est horrible. C'est horrible, ces baguettes. Et donc l'enfer, c'est ça. C'est-à-dire que je vois tout ce qu'il y a à manger, et je peux rien manger parce que mes baguettes sont trop longues. Et puis, le paradis, en fait, vous savez, c'est une grande marmite comme ça, avec plein de gens autour, qui ont des baguettes très très longues. Mais ils sont hyper contents parce qu'à chaque fois qu'ils prennent, ils donnent à manger à leurs voisins, et puis à leurs voisins, et puis à leurs voisins, et puis comme ça. Et puis ils reçoivent à manger de leurs voisins et de leurs voisins. Ah, et puis c'est le paradis parce qu'en fait tout le monde se donne à manger mutuellement et c'est le bonheur. Voilà. C'est comme le feu d'hier, c'est le même feu, sauf qu'il y en a un qui consomme et l'autre qui nous brûle. Là c'est pareil, c'est les mêmes plats, sauf qu'il y en a un qui vit dans la charité et l'autre qui le vit de manière égoïste. Peut-être que cette manière de nous entraîner mutuellement sans nous juger, vous voyez, sans nous jeter la pierre, mais de dire effectivement, là-dessus, j'y arrive pas. Ou là-dessus, il faudrait qu'on s'entraide. La tristesse du monde dont fait référence Saint Paul, je pense qu'on en a un exemple dans l'évangile avec le jeune homme riche. On nous dit qu'il s'en alla tristement parce qu'il avait de grands biens. Vous voyez, il voit cette beauté de l'appel et il n'arrive pas à faire le pas. Ses richesses l'empêchent d'entrer dans ce bien. Et par contre, parallèlement, une richesse, une tristesse qui, selon Dieu, c'est Zachée et c'est Lévi. Eux aussi, ils sont riches, ils se sont enrichis, ils ont même volé les autres. Le jeune homme riche, il a volé personne. C'est ses richesses, il a bien acquis ses richesses. Il a travaillé toute sa vie, il a une bonne retraite maintenant, il est bien installé, il a un bon confort. Toujours, il était bon. Et quand Jésus lui dit, peut-être que ce qui serait pas mal, c'est que tu partages tes richesses, il dit, non, je peux pas ça. Zachée, lui, et ses richesses, il les a piquées quand même. Et donc, il a toutes ses richesses autour de lui, là, il est bien assis. Jésus lui dit, écoute, mon gars, il lui dit rien même, Jésus. Il dit, je viens juste manger chez toi. Et ça a un mouvement chez Zachée où il va redonner l'argent qu'il a donné. Et deux fois plus. Il dit, je vais donner deux fois plus que ce que j'ai volé. Et Matthieu, c'est pareil. Le publicain, il invite les pécheurs autour de lui, venez, voilà ce qui s'est passé. Voilà. Vous voyez ? Et donc, il y a à la fois un point d'attention sur un point de conversion. Et il y en a un qui dit « Ah non, c'est pas possible. » Et l'autre qui se dit « Ok, il faut qu'on traite la question. » Et il y va et il y trouve la joie. Alors rassurez-vous, la tradition nous dit que le jeune homme riche, finalement, il va y arriver. Vous voyez ? Mais qu'il lui faudra du temps. Alors, il y a d'autres tristesses qui sont liées à la mission. Jésus dit « Mon âme est triste à en mourir. » Dans l'agonie. « Mon âme est triste à en mourir. » Voyez, et donc c'est une tristesse qui est fondamentalement liée à son mission, parce qu'il doit sauver les hommes, et c'est pas si simple. Et il y a une angoisse, et il va traverser cette angoisse, il va aller jusqu'au bout de sa mission. Voyez, cette angoisse, il faut qu'il la passe. Mais il sait qu'il est en train de faire la volonté du Père. voyez, le père Jean-Rodolphe, il est pas pape encore, et, parle de ce bouleversement dans ses entrailles. Il est saisi aux entrailles. Ah, ben nous, il y a peut-être des moments où il y a une tristesse, voilà, qui peut nous arriver, et il faut qu'on la traverse, cette tristesse, en disant, mais, et ce qui aide Jésus à traverser, c'est, en fait, je fais ta volonté, je fais la volonté du Père. Je pensais à une statue où on voit le Christ, il s'appelle le Christ au sourire, le Christ est crucifié, mais on le voit souriant de faire la volonté du Père. Et pourtant, c'est une vraie épreuve. Et il y a une autre tristesse qui est la tristesse liée à la compassion. Si on reste sur l'agonie, on dit que les apôtres étaient tristes. Ils sont endormis de tristesse. Vous voyez, c'est pas de la malveillance. Peut-être que nous aussi, on est saisis de tristesse quand on voit ce monde. Pas seulement centré sur nous-mêmes, mais on regarde autour de nous et ça nous saisit en disant, mais, vous voyez, on voit le monde, on voit tous les enjeux écologiques, on voit ici qu'il n'y a pas une goutte d'eau depuis 3 mois, on voit les vaches qui commencent une charolaise où on voit les côtes, c'est quand même pas extraordinaire, hein. Et ben, ça nous rend triste. Vous voyez, c'est pas négatif. C'est une tristesse pleine de compassion. Vous voyez, et voilà. On se dit, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire? J'éprouve une grande tristesse et une douleur incessante en mon cœur, dit saint Paul quand il voit ses frères juifs qui n'accueillent pas le Christ. Il dit, mais j'ai une tristesse incessante dans mon cœur et j'aimerais moi-même être séparé du Christ pour mes frères, ceux de ma race selon la chair. Si je pouvais prendre leur place pour qu'eux prennent la mienne, qu'ils découvrent la joie de découvrir le Christ. Vous voyez, il y a cette compassion dans notre cœur. Voilà, qui est vraiment... Voilà, cette tristesse compatissante. Et puis il y a une tristesse liée à l'épreuve. Dans l'épître de Saint-Pierre, il est écrit « Vous en tressaillez de joie, bien qu'il vous faille encore quelque temps être affligé par diverses épreuves, afin que, bien éprouvée, votre foi plus précieuse que l'or périssable, que l'on vérifie par le feu, devienne un sujet de louange, de gloire et d'honneur, lors de la révélation de Jésus-Christ. Sans l'avoir vu, vous l'aimez, sans le voir encore, mais en croyant, vous tressaillez d'une joie indicible et pleine de gloire. » Vous voyez, il y a une vraie joie, même si on voit que tout n'est pas accompli. Le pape va insister là-dessus sur la dimension de la patience. Il y a de l'endurance, la persévérance, vous voyez? On n'est pas encore au ciel, par exemple, vous avez remarqué, hein, c'est pas encore le paradis. Et en même temps, il y a une vraie joie. On est en chemin, on avance, on progresse. Vous voyez, des fois, je prends un exemple, des fois, ça arrive de temps en temps qu'on répète les mêmes péchés. Ça arrive de temps en temps, on se dit, tiens, c'est marrant, je me suis confessé, et je vois que ça revient. Eh bien, effectivement, il y a une tristesse. Et en même temps, est-ce qu'il peut y avoir un point de joie de dire, mais quand même, il y a depuis la dernière fois, il y a eu ce progrès. Ou alors, j'ai progressé aussi en humilité, à dire, ben en fait, Seigneur, j'accueille plus paisiblement ma fragilité aussi. J'intègre ça dans mon histoire. Je suis arrêté, vous voyez ? Voilà. Donc d'entrer dans ce chemin, de voir le chemin parcouru, le progrès. Alors le parcours de toutes ces tristesses a pour objectif de ne pas y rester quand même. Et donc je voudrais conclure avec ça, avec d'abord Marguerite Marie, dans ses notes, elle parle que 5 fois de la tristesse. C'est hyper rare. Elle parle de la tristesse d'abord 2 fois pour parler de la tristesse de Jésus lui-même. C'est Jésus qui lui dit qu'il est triste. Et notamment, on l'a évoqué hier pendant le temps de prière pour les agonisants, sa tristesse à l'agonie. Et Marguerite Marie, elle est saisie de cette tristesse du Christ et elle se laisse habiter par cette tristesse. Elle parle aussi de la tristesse du Christ par rapport aux pécheurs, et qui nous rappelle l'expérience d'Isaïe. Et Isaïe dit, ah là là, Isaïe 5, qui enverrai-je? Et Isaïe va dire, Seigneur, envoie-moi. Ouais, devant cette situation du monde, je peux me dire, qu'est-ce que je vais faire? Avec quelques-uns, il y a pas quelques jours, on a regardé le film du pape François. Vous voyez, un homme de parole. Et c'est vrai qu'on m'a demandé que moi, qu'est-ce que j'en avais pensé. Alors, si on regarde le pape François, on dit, mais c'est extraordinaire, c'est un homme magnifique, il réagit sur les fronts et tout ça. Mais moi, j'ai dit, quand j'ai vu ce film-là, j'ai trouvé ça désespérant. Parce que, ben oui, j'ai trouvé ça désespérant, vous vous rendez compte? Comment mon père vous a trouvé désespérant? En fait, le film est magnifique, et l'attitude du pape est magnifique. Mais la situation du monde qui est présentée est loin d'être magnifique. On enchaîne des dossiers tragique, où on nous dit qu'on est sur des points de non-retour, voyez, et on se dit, mais en fait, on se donne depuis des siècles et tout ça, et on peut se dire, mais est-ce qu'on va y arriver? Voilà. Hein? Et en fait, comment cette tristesse, elle nous motive? Parce qu'il y a deux applications. Soit on s'enferme, on dit, oh, non, voilà, barricadons-nous, vite. Remplissons nos puits d'eau, faisons nos réserves, parce que demain, il n'y aura pas assez d'eau pour toute la planète, donc moi, il faut que j'ai ce qu'il faut pour vivre, et puis après moi, ça ne sert à rien. Ou est-ce que cette tristesse va nous mettre en mouvement? Vous voyez, et je me dis, ben, en voyant ce film-là, je me dis, ben, il ne suffit pas qu'il y ait 4-5 personnes qui se mettent en mouvement, hein, il faut quand même qu'on s'y mette tous. Et le pape, justement, a cette force et ce courage de poser les dossiers sur la table en disant, il faut y aller, d'aller au congrès américain, dire, mes chers amis, il y a du boulot. Vous voyez, et ça suppose une mobilisation de tout le monde. Voilà. Et justement, ce qui est très beau dans ce film-là, c'est que lorsqu'il est filmé, lorsqu'il est cadré, il nous parle, parce qu'il est cadré comme s'il vous parlait. Donc en gros, il est en train de vous dire, mon copain, c'est à toi d'y aller, quoi. Et qu'on ne puisse pas sortir de ce film-là en disant, oh, il faudrait quand même que les autres, ils fassent des choses. Il faudrait qu'ils se bougent quand même dans les gouvernements, tout ça. Dans l'ONU, dans les instances internationales. En fait, ils te regardent en disant, mais c'est à toi d'y aller. Et voilà. Et là, ça nous bouge dans ce travail. Ben, effectivement, ça peut y avoir un découragement qui nous invite à nous dire, il faut qu'on y aille, quoi. Et ce sera plus facile si on y va ensemble. Bon, voilà. Moi, c'est mon ressenti. Il a le droit de pas être juste, hein, mais. Alors, Marguerite Marie évoque un lieu de tristesse aussi, c'est la tristesse que donne le démon. Le démon, l'attente dans la tristesse. Le démon me faisait souvent tomber et rompre tout ce que je tenais entre les mains, et puis il se moquait de moi en me riant quelquefois au nez. J'ai l'impression que c'est physique même, elle casse des choses. Elle dit, oh la lourde, tu ne feras jamais rien qui vaille. Le démon veut nous décourager. Le démon, c'est lui qui veut nous mettre la tristesse dans le cœur, la mauvaise tristesse, qui dit, la tristesse, tu ne changeras pas. Tu ne vaudras vraiment rien. Et ce qui jetait mon esprit, dit Marguerite Marie, dans une tristesse et un abattement si grand que je savais que faire, car souvent il m'ôtait le pouvoir de le dire à notre mère, parce que l'obéissance abattait et dissipait toutes ses forces. Alors il faut lire la phrase jusqu'au bout, parce qu'elle est magnifique justement cette phrase-là. C'est-à-dire que le démon l'attend en disant, mais vraiment, tu vaux vraiment pas grand-chose. Surtout, le dis pas aux autres. Et Marguerite Marie, elle sait que l'obéissance, c'est lui qui a désobéi. Donc, c'est écrasé la tête. Marie, elle était dans l'obéissance, elle a écrasé la tête du serpent. Et donc, Marguerite Marie, elle comprend que quand elle en parle à sa mère, à sa supérieure, elle dit, mais attends, t'inquiète pas, ou voilà, elle rend compte de ce qu'elle a fait. Elle dit, bah là, j'ai encore fait tomber le vase. Et le démon dit, tu vas quand même pas dire ça à ta mère. Et hop, je reste dans ma tristesse et tout ça. Et elle dit, meilleur moyen que j'ai trouvé pour vaincre le démon, c'est de pouvoir l'objectiver et d'en parler à ma mère, à ma supérieure, quoi. Et là, ça cassait tout, point. Le pape en parle aussi du démon. Il dit, ne pensons donc pas que c'est un mythe, une représentation, un symbole, une figure ou une idée. Cette erreur nous conduit à baisser les bras, à relâcher la tension et à être plus exposés. Il n'a pas besoin de nous posséder, il nous empoisonne par la haine, par la tristesse, par l'envie, par les vices. Et ainsi, alors que nous baissons la garde, il en profite pour détruire notre vie, nos familles et nos communautés, car il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et entendez bien cette parole, il n'a pas besoin de nous posséder, hein, le démon, on n'est pas tous possédés par le démon. On va très vite, des fois, je me souviens de quelques personnes que j'ai rencontrées en disant, mais bah, peut-être ce serait bien que vous confessiez. Non, je n'ai pas besoin de me confesser, j'ai besoin d'être exorcisé. Je dis, ben non, vous demandez pardon pour vos péchés d'abord, hein, c'est peut-être simplement ça. Ce n'est pas tout de suite une possession, hein. La possession voudrait dire qu'on n'est pas responsable de nos actes. Par contre, il sait nous tenter et nous, ensuite, on se fait prendre. Alors, tout ça pour arriver à la joie, maintenant que je vous ai bien sapé le moral. Saint Jean, chapitre 16, verset 20, nous donne cette très belle image pour choisir la joie. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez, vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez triste, mais votre tristesse se changera en joie. La femme sur le point d'accoucher s'attriste parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus des douleurs dans la joie qu'un homme soit venu au monde. Vous aussi, maintenant, vous voilà triste, mais je vous verrai de nouveau et votre cœur sera dans la joie et votre joie, nul ne vous l'enlèvera. Voyez, donc il peut y avoir des temps de tristesse, mais qui conduisent à une fécondité. En fait, il y a un engendrement à vivre. Voyez, et donc nous avons osé mener le combat, prendre au sérieux nos lieux de combat. Et du coup, effectivement, il y a un combat, mais qui est en vue de cette tristesse. C'est pour cela que nous travaillons, en vue de cette joie, c'est en vue de cela que nous travaillons. Et je trouve que l'image de l'accouchement est magnifique. Alors pour l'instant, moi, j'ai pas l'expérience de l'accouchement. Je dis pour l'instant parce que je sais pas ce que demain je serai capable de faire avec les progrès du monde actuel. Mais donc, je n'ai pas la joie. Je trouve qu'au nom de l'égalité, vous trouvez pas ça inadmissible, messieurs. Nous ne pouvons pas donner la vie. C'est inadmissible. Je crois que ce concept de l'égalité devrait me permettre de pouvoir donner la vie, quand même. Je ne comprends pas. Je trouve ça injuste, ce monde. Et en fait, moi, une autre image que j'expérimente plus, modeste, mais mesdames, c'est extraordinaire. Il y a une artiste qui exprime bien justement ça. Ah, messieurs, vous avez souffert. Ouais, t'as planté un clou, tu te l'es mis sur ton doigt, t'as vraiment souffert. Moi, 3 cicatrices, une césarienne. Voilà. Moi, j'ai fait le Vietnam, dit-elle par rapport à ces accouchements. Bon, moi, l'image, elle est plus bucolique. C'est quand vous faites une randonnée. Quand vous essayez d'atteindre un sommet, je ne sais pas si vous avez déjà fait une colline ou autre chose, ou même la montagne, il y a un moment où vous dites, j'en peux plus là. Vous voyez, il y a un dénivelé, un moment où vous dites, là, j'arriverai pas au bout. Et en fait, ça, c'est fatigant. Et effectivement, vous sentez qu'il faut mettre un pas devant l'autre et tout ça, et vous dites, ah là là, j'aurais pas dû manger mon sandwich avant, j'aurais dû attendre après, parce que là, il est encore fort en plus que je le monte. Et ce qui est étonnant, ce qui m'impressionne, c'est que quand on arrive au sommet, La fatigue ressentie pendant la montée, je ne l'ai plus. Ça ne veut pas dire que je peux refaire encore 2000 mètres de dénivelé, vous voyez. Mais il y a une grâce, vous voyez, il y a quelque chose, il y a une épreuve qui peut être fatigante et à un moment, tac, qui aboutit à une joie, la joie d'avoir été au bout de ma course, d'être arrivé à ce sommet, à ce point de vue, et de dire, voilà. Et ça, c'est magnifique, vous voyez. Et en même temps, je pourrais me dire, j'arrête, je ne vais pas plus loin. Alors, des fois, il faut être raisonnable quand même, Mais, vous voyez. Mais donc doser cette étape où je dis peut-être que ça va être douloureux ce truc-là, peut-être que ça va être compliqué. Mais l'objectif c'est d'arriver sur ce point-là. Alors Jésus nous dit heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi. Matthieu 11, 6. Heureux le serviteur que le maître trouvera en train de veiller. Matthieu 17. Les béatitudes, heureux les artisans de paix. Construire la paix, ça se fait pas en 2 minutes. Heureux les affamés de justice, les persécutés à cause du nom de Jésus. Heureux êtes-vous car l'Esprit de Dieu repose sur vous, dit saint Pierre. Dans la première épître de Pierre au chapitre 3, verset 14. Il dit, heureux d'ailleurs quand vous souffrirez pour la justice, n'ayez de aucune crainte et ne soyez pas troublés. Au contraire, sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur Jésus-Christ, toujours prêt à la défense contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Heureux si vous êtes outragés pour le nom du Christ, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Dans l'Évangile selon saint Jean, heureux celui qui a cru sans avoir vu. À la fin, après avoir vécu le lavement des pieds, heureux êtes-vous si vous le faites. Saint Paul aux Philippiens, au fait, si mon sang même doit se répandre en libation sur le sacrifice et l'oblation de votre foi, j'en suis heureux et je m'en réjouis avec vous tous, comme vous devez de votre côté en être heureux et vous en réjouir avec moi. Et saint Paul arrive au bout de sa course, il dit, si mon travail, si tout ce que j'ai pu peiner a permis votre sanctification, j'en suis ravi. Et on retrouve ça chez le prophète Jérémie, qui n'est quand même pas une mission facile. On pourrait dire, Jérémie reste à la maison parce que les paroles ne sont pas belles. Enfin, tu vas devoir bousculer ce peuple. Et Jérémie dit, heureux d'avoir obéi au commandement du Seigneur. Alors demandons cette grâce, frères et sœurs, d'entrer dans cette joie. Et d'entrer dans cette joie aussi, une dernière joie que je voudrais évoquer avec vous, c'est la joie du futur qui nous attend. Vous voyez, souvent, sous prétexte que Karl Marx parle de l'opium du peuple, on ne se réjouit plus de l'avenir. Mais on est quand même fait pour le ciel, vous savez. Et donc ce ciel, on a le droit de s'en réjouir. La vie éternelle, on a le droit de s'en réjouir. Vous voyez. Pourquoi les martyrs sont prêts à leur donner leur vie, c'est qu'ils savent aussi qu'il y a cette vie éternelle qui s'attend devant eux. Heureux s'ils n'ont pas de quoi te rendre, dit Jésus dans l'Évangile. Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur dès maintenant, oui, dit l'Esprit, qu'ils se reposent de leur fatigue, car leur œuvre les accompagne. Voilà, et bien que si nous sommes fatigués de temps en temps, que le Seigneur nous encourage à avancer. Donc pour vivre ce chemin, Eh bien, je vais finir par les mots du pape. Le Père nous invite, mon fils, traite-toi bien, ne te refuse pas le bonheur présent. Il nous veut positif, reconnaissant et pas trop compliqué. Au jour du bonheur, sois heureux. Dieu a fait l'homme tout droit et lui cherche bien des calculs. Dieu a fait l'homme tout droit et l'homme cherche bien des calculs. Peut-être que la vie que Dieu nous propose est plus simple que ce que nous nous compliquons aussi. En toutes circonstances, il faut garder un esprit souple et faire comme saint Paul. J'ai appris en effet à me suffire en toute occasion. C'est ce que vivait saint François d'Assise, capable d'être ému de gratitude devant un morceau de pain dur, ou bien heureux de louer Dieu uniquement pour la brise qui caressait son visage. Et une condition essentielle au progrès, c'est de s'éduquer à la patience de Dieu et à ses temps qui ne sont jamais les nôtres. Il ne fait pas tomber le feu sur les infidèles, il ne permet pas d'arracher l'ivraie qui grandit avec le blé. Il faut aussi de la générosité, parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il faut du discernement. Voilà, frères et sœurs, je m'arrête là. Que le Seigneur nous aide à rentrer dans cette joie. Pardon d'avoir osé parler de la tristesse, mais il me semble que si on veut vraiment rentrer dans cette joie, eh bien, prenons les moyens. Justement, ne nous inquiétons pas trop lorsque nous voyons des chemins d'étape, là, mais osons les traverser. Construisons ce chemin pour rentrer dans cette joie de la sainteté, dans la joie du travail à faire. Je vous remercie. Bonne journée.